Chapitre 2 Séraphita. Pendant la soirée, David rentra dans le salon. « Je sais qui vous m'annoncez, » lui dit Séraphita, d'une voix endormie. « Wilfried peut entrer. » En entendant ces mots, un homme se présenta soudain et vint s'asseoir auprès d'elle. « Ma chère Séraphita, souffrez-vous? Je vous trouve plus pâle que de coutume. » Elle se tourna lentement vers lui, après avoir chassé ses cheveux en arrière, comme une jolie femme qui, accablée par la migraine, n'a plus la force de se plaindre. « J'ai fait, » dit-elle, « la folie de traverser le fjord avec Mina. Nous avons monté sur le Falberg. Vous voulez donc vous tuer ? » dit-il avec l'effroi d'un amant. « N'ayez pas peur, bon Wilfried. J'ai eu bien soin de votre Mina. » Wilfried frappa violemment de sa main la table, se leva, fit quelques pas vers la porte en laissant échapper une exclamation pleine de douleur. Puis il revint et voulut exprimer une plainte. « Pourquoi ce tapage, si vous croyez que je souffre ?» dit Séraphita. « Pardon, grâce, » répondit-il en s'agenouillant. « Parlez-moi durement, exigez de moi tout ce que vos cruelles fantaisies de femme vous feront imaginer de plus cruel à supporter. Mais, ma bien-aimée, ne mettez pas en doute mon amour. Vous prenez Mina comme une hache et m'en frappez à coups redoublés. Grâce, pourquoi me dire de telles paroles, mon ami, quand vous les savez inutiles ? Répondit-elle en lui jetant des regards qui finissaient par devenir si doux que Wilfried ne voyait plus les yeux de Séraphita, mais une fluide lumière dont les tremblements ressemblaient aux dernières vibrations d'un chant plein de mollesse italienne. « Ah, l'on ne meurt pas d'angoisse, » dit-il. « Vous souffrez ? » reprit-elle d'une voix dont les émanations produisaient au cœur de cet homme un effet semblable à celui des regards. « Que puis-je pour vous ? Aimez-moi comme je vous aime. Pauvre Mina, répondit-elle. Je n'apporte jamais d'armes, cria Wilfried. Vous êtes d'une humeur massacrante, fit en souriant Séraphita. N'ai-je pas bien dit ces mots comme ces Parisiennes de qui vous me racontez les amours? Wilfried s'assit, se croisa les bras et contempla Séraphita d'un air sombre. « Je vous pardonne, » dit-il, « car vous ne savez ce que vous faites. »« Oh !» reprit-elle, « une femme, depuis Ève, a toujours fait sciemment le bien et le mal. »« Je le crois, » dit-il, « j'en suis sûr, Wilfried. »« Notre instinct est précisément ce qui nous rend si parfaites. »« Ce que vous apprenez, vous autres, nous le sentons, nous. »« Pourquoi ne sentez-vous pas alors combien je vous aime ?» « Parce que vous ne m'aimez pas ? Grand Dieu ! Pourquoi donc vous plaignez-vous de vos angoisses ? » demanda-t-elle. « Vous êtes terrible ce soir, Séraphita, vous êtes un vrai démon. »« Non, je suis doué de la faculté de comprendre, et c'est affreux. La douleur, Wilfried, est une lumière qui nous éclaire la vie. »« Pourquoi donc alliez-vous sur le Falberg ? Mina vous le dira, moi je suis trop lasse pour parler. » À vous la parole, à vous qui savez tout, qui avez tout appris et n'avez rien oublié, vous qui avez passé par tant d'épreuves sociales. Amusez-moi, j'écoute. Que vous dirais-je que vous ne sachiez? D'ailleurs, votre demande est une raillerie. Vous n'admettez rien du monde, vous en brisez les nomenclatures, vous en foudroyez les lois, les mœurs, les sentiments, les sciences, en les réduisant aux proportions que ces choses contractent quand on se pose en dehors du globe. « Vous voyez bien, mon ami, que je ne suis pas une femme. »« Vous avez tort de m'aimer. »« Quoi ? Je quitte les régions éthérées de ma prétendue force, je me fais humblement petite, je me courbe à la manière des pauvres femelles de toutes les espèces, et vous me rehaussez aussitôt ? Enfin, je suis en pièces, je suis brisé, je vous demande du secours, j'ai besoin de votre bras, et vous me repoussez. Nous ne nous entendons pas. Vous êtes ce soir plus méchante que je ne vous ai jamais vue. Méchante ? Dit-elle en lui lançant un regard qui fondait tous les sentiments en une sensation céleste. Non, je suis souffrante, voilà tout. Alors quittez-moi, mon ami. Ne sera-ce pas user de vos droits d'homme ? Nous devons toujours vous plaire, vous délasser, être toujours gais et n'avoir que les caprices qui vous amusent. Que dois-je faire, mon ami ? Voulez-vous que je chante, que je danse, quand la fatigue m'ôte l'usage de la voix et des jambes ? Messieurs, fussions-nous à l'agonie, nous devons encore vous sourire. Vous appelez cela, je crois, régner. Les pauvres femmes, je les plains. Dites-moi, vous les abandonnez quand elles vieillissent ? Elles n'ont donc ni cœur, ni âme ? Eh bien, j'ai plus de 100 ans, Wilfrid. Allez-vous-en ? Allez au pied de Mina ? Oh, mon éternel amour, savez-vous ce que c'est que l'éternité ? Taisez-vous, Wilfrid. Vous me désirez et vous ne m'aimez pas. Dites-moi, ne vous rappelais-je pas bien quelques femmes coquettes ? Oh, certes, je ne reconnais plus en vous la pure et céleste jeune fille que j'ai vue pour la première fois dans l'église de Jarvis. À ces mots, Séraphita se passa les mains sur le front, et quand elle se dégagea la figure, Wilfrid fut étonné de la religieuse et sainte expression qui s'y était répandue. Vous avez raison, mon ami. J'ai toujours tort de mettre les pieds sur votre terre. Oui, chère Séraphita, soyez mon étoile, et ne quittez pas la place d'où vous répandez sur moi de si vives lumières. En achevant ces mots, il avança la main pour prendre celle de la jeune fille, qui la lui retira sans dédain ni colère. Wilfrid se leva brusquement et s'alla placer près de la fenêtre, vers laquelle il se tourna pour ne pas laisser voir à Séraphita quelques larmes qui lui roulèrent dans les yeux. « Pourquoi pleurez-vous ? » lui dit-elle. « Vous n'êtes plus un enfant, Wilfrid. Allons, revenez près de moi, je le veux. Vous me boudez quand je devrais me fâcher. Vous voyez que je suis souffrante et vous me forcez, je ne sais par quel doute, de penser, de parler ou de partager des caprices et des idées qui me lassent. Si vous aviez l'intelligence de ma nature, vous m'auriez fait de la musique, vous auriez endormi mes ennuis, mais vous m'aimez pour vous et non pour moi. » L'orage qui bouleversait le cœur de Wilfrid fut soudain calmé par ces paroles. Il se rapprocha lentement pour mieux contempler la séduisante créature qui gisait, étendue à ses yeux, mollement couchée, la tête appuyée sur sa main et accoudée dans une pose décevante. « Vous croyez que je ne vous aime point ? » reprit-elle. « Vous vous trompez ? Écoutez-moi, Wilfrid. Vous commencez à savoir beaucoup. Vous avez beaucoup souffert. Laissez-moi vous expliquer votre pensée. Vous vouliez ma main ? » Elle se leva sur son séant, et ses jolis mouvements semblèrent jeter des lueurs. Une jeune fille qui se laisse prendre la main ne fait-elle pas une promesse, et ne doit-elle pas l'accomplir ? Vous savez bien que je ne puis être à vous. 2 sentiments dominent les amours qui séduisent les femmes de la terre. Ou elles se dévouent à des êtres souffrants, dégradés, criminels, qu'elles veulent consoler, relever, racheter, ou elles se donnent à des êtres supérieurs, sublimes, forts, qu'elles veulent adorer, comprendre, et par lesquels souvent elles sont écrasées. Vous avez dégradé, vous avez été dégradé, mais vous vous êtes épuré dans les feux du repentir, et vous êtes grand aujourd'hui. Moi, je me sens trop faible pour être votre égal, et suis trop religieuse pour m'humilier sous une puissance autre que celle d'en haut. Votre vie, mon ami, peut se traduire ainsi. Nous sommes dans le nord, parmi les nuées où les abstractions courent. Vous me tuez, Séraphita, lorsque vous parlez ainsi, répondit-il. Je souffre toujours en vous voyant user de la science monstrueuse avec laquelle vous dépouillez toutes les choses humaines, des propriétés que leur donne le temps, l'espace, la forme, pour les considérer mathématiquement sous je ne sais quelle expression pure, ainsi que le fait la géométrie, pour les corps desquels elle abstrait la solidité. Bien, Wilfried, je vous obéirai. Laissons cela. Comment trouvez-vous ce tapis de peau d'ours que mon pauvre David a tendu là? Mais très bien. Vous ne connaissiez pas cette doucha greca? C'était une espèce de pélisse en cachemire doublée en peau de renard noir et dont le nom signifie « chaude à l'âme ». Croyez-vous, reprit-elle, que, dans aucune cour, un souverain possède une fourrure semblable? Elle est digne de celle qui la porte. Et que vous trouvez bien belle? Les mots humains ne lui sont pas applicables. Il faut lui parler de cœur à cœur. Wilfried, vous êtes bon d'endormir mes douleurs par de douces paroles. Que vous avez dites à d'autres? Adieu. Restez. Je vous aime bien, vous, Emina, croyez-le. Mais je vous confonds en un seul être. Réunis ainsi, vous êtes un frère, ou, si vous voulez, une sœur pour moi. Mariez-vous, que je vous vois heureux avant de quitter pour toujours cette sphère d'épreuves et de douleurs. Mon Dieu, de simples femmes ont tout obtenu de leurs amants. Elles leur ont dit « Taisez-vous ». Ils ont été muets. Elles leur ont dit « Mourez ». Ils sont morts. Elles leur ont dit « Aimez-moi de loin ». Ils sont restés à distance, comme les courtisans devant un roi. Elles leur ont dit « Mariez-vous ». Ils se sont mariés. Moi, je veux que vous soyez heureux, et vous me refusez. Je suis donc sans pouvoir? Eh bien, Wilfried, écoutez, venez plus près de moi. Oui, je serai fâché de vous voir épouser Mina. Mais quand vous ne me verrez plus, alors, promettez-moi de vous unir. Le ciel vous a destinés l'un à l'autre. Je vous ai délicieusement écouté, Séraphita. Quelque incompréhensible que soient vos paroles, elles ont des charmes. Mais que voulez-vous dire? Vous avez raison. J'oublie d'être folle, d'être cette pauvre créature dont la faiblesse vous plaît. Je vous tourmente, et vous êtes venue dans cette sauvage contrée pour y trouver le repos. Vous, brisée par les impétueux assauts d'un génie méconnu. Vous, exténuée par les patients travaux de la science. Vous qui avez presque trempé vos mains dans le crime et porté les chaînes de la justice humaine. Wilfried était tombé demi-mort sur le tapis, mais Séraphita souffla sur le front de cet homme qui s'endormit, aussitôt, paisiblement à ses pieds. Dors. Repose-toi, dit-elle en se levant. Après avoir imposé ses mains au-dessus du front de Wilfried, les phrases suivantes s'échappèrent une à une de ses lèvres, toutes différentes d'accent, mais toutes mélodieuses et empreintes d'une bonté qui semblait émaner de sa tête par ondées nuageuses, comme les lueurs que la déesse profane verse chastement sur le berger bien-aimé durant son sommeil. Je puis me montrer à toi, cher Wilfried, tel que je suis, à toi qui es fort. L'heure est venue. L'heure où les brillantes lumières de l'avenir jettent leurs reflets sur les âmes, l'heure où l'âme s'agite dans sa liberté. Maintenant, il m'est permis de te dire combien je t'aime. Ne vois-tu pas quel est mon amour? Un amour sans aucun propre intérêt, un sentiment plein de toi seul. Un amour qui te suit dans l'avenir, pour t'éclairer l'avenir, car cet amour est la vraie lumière. Conçois-tu maintenant, avec quelle ardeur je voudrais te savoir quitte de cette vie qui te pèse, et te voir plus près que tu ne l'es encore du monde où l'on aime toujours? N'est-ce pas souffrir que d'aimer pour une vie seulement? n'as-tu pas senti le goût des éternels amours? Comprends-tu maintenant? À quel ravissement une créature s'élève, alors qu'elle est double à aimer celui qui ne trahit jamais l'amour, celui devant lequel on s'agenouille en adorant. Je voudrais avoir des ailes, Wilfrid, pour t'en couvrir, avoir de la force à te donner pour te faire entrer par avance dans le monde où les plus pures joies du plus pur attachement qu'on éprouve sur cette terre feraient une ombre dans le jour qui vient incessamment éclairer et réjouir les cœurs. Pardonne à une âme, amie, de t'avoir présenté en un mot le tableau de tes fautes, dans la charitable intention d'endormir les douleurs aiguës de tes remords. Entends les concerts du pardon. Rafraîchis ton âme en respirant l'aurore qui se lèvera pour toi par-delà les ténèbres de la mort. Oui, ta vie à toi est par-delà. Que mes paroles revêtent les brillantes formes des rêves, qu'elles se parent d'images, flamboient et descendent sur toi. Monte, monte. Au point où tous les hommes se voient distinctement, quoique pressés et petits comme des grains de sable au bord des mers. L'humanité s'est déroulée comme un simple ruban. Regarde les diverses nuances de cette fleur, les jardins célestes, vois-tu, ceux auxquels manque l'intelligence, ceux qui commencent à s'en colorer, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont dans l'amour, ceux qui sont dans la sagesse et qui aspirent au monde de lumière. Comprends-tu par cette pensée visible la destinée de l'humanité? D'où elle vient? Où elle va? Persiste en ta voix. En atteignant au but de ton voyage, tu entendras sonner les clairons de la toute-puissance, retentir les cris de la victoire et des accords dont un seul ferait trembler la terre, mais qui se perdent dans un monde sans Orient et sans Occident. Comprends-tu, pauvre chair éprouvée, que sans les engourdissements, sans les voiles du sommeil, de tels spectacles emporteraient et déchireraient ton intelligence, comme le vent des tempêtes emporte et déchire une faible toile et ravirait pour toujours à un homme sa raison? Comprends-tu que l'âme, seule, élevée à sa toute-puissance, résiste à peine, dans le rêve, aux dévorantes communications de l'esprit? Vois encore, à travers les sphères brillantes et lumineuses, admire, cours. En volant ainsi, tu te reposes, tu marches sans fatigue. Comme tous les hommes, tu voudrais être toujours ainsi plongé dans ces sphères de parfums, de lumière où tu vas, léger de tout ton corps évanoui, où tu parles par la pensée. Cours, vole, jouis un moment des ailes que tu conquerras, quand l'amour sera si complet en toi que tu n'auras plus de sens, que tu seras toute intelligence et tout amour. Plus haut tu montes, et moins tu conçois les abîmes. Il n'existe point de précipice dans les cieux. Vois celui qui te parle, celui qui te soutient, au-dessus de ce monde où sont les abîmes. Vois, contemple-moi, encore un moment, car tu ne me verras plus qu'imparfaitement, comme tu me vois à la clarté du pâle soleil de la terre. Séraphita se dressa sur ses pieds, resta, la tête mollement inclinée, les cheveux épars, dans la pose aérienne que les sublimes peintres ont tous donnée aux messagers d'en haut. Les plis de son vêtement eurent cette grâce indéfinissable qui arrête l'artiste, l'homme qui traduit tout par le sentiment, devant les délicieuses lignes du voile de la polymnie antique. Puis elle étendit la main et Wilfrid se leva. Quand il regarda Séraphita, la blanche jeune fille était couchée sur la peau d'ours, la tête appuyée sur sa main, le visage calme, les yeux brillants. Wilfrid la contempla silencieusement, mais une crainte respectueuse animait sa figure et se trahissait par une contenance timide. « Oui, chère, » dit-il enfin comme s'il répondait à une question, « nous sommes séparés par des mondes entiers. Je me résigne et ne puis que vous adorer. » Mais que vais-je devenir ? moi, pauvre seul.
Wilfrid, n'avez-vous pas votre Mina ?
Il baissa la tête.
Oh, ne soyez pas si dédaigneux. La femme comprend tout par l'amour. Quand elle n'entend pas, elle sent. Quand elle ne sent pas, elle voit. Quand elle ne voit, ni ne sent, ni n'entend, eh bien, cet ange de la terre vous devine pour vous protéger et cache ses protections sous la grâce de l'amour.
Séraphita, suis-je digne d'appartenir à une femme ?
Vous êtes devenu soudain bien modeste. Ne serait-ce pas un piège ? Une femme est toujours si touchée de voir sa faiblesse glorifiée. Eh bien, après-demain soir, venez prendre le thé chez moi. Le bon monsieur Baker y sera, vous y verrez Mina, la plus candide créature que je sache en ce monde.
Laissez-moi maintenant, mon ami, j'ai ce soir de longues prières à faire pour expier mes fautes.
Comment pouvez-vous pécher ? Pauvre cher, abuser de sa puissance, n'est-ce pas de l'orgueil ? Je crois avoir été trop orgueilleuse aujourd'hui. Allons, partez. À demain.
À demain, dit faiblement Wilfrid en jetant un long regard sur cette créature de laquelle il voulait emporter une image ineffaçable. Quoiqu'il voulût s'éloigner, il demeura pendant quelques moments debout, occupé à regarder la lumière qui brillait par les fenêtres du château suédois.
« Qu'ai-je donc vu ? » se demandait-il.
« Non, ce n'est point une simple créature, mais toute une création. De ce monde, entrevu à travers des voiles et des nuages, il me reste des retentissements semblables au souvenir d'une douleur dissipée, ou pareils aux éblouissements causés par ces rêves dans lesquels nous entendons le gémissement des générations passées qui se mêlent aux voix harmonieuses des sphères élevées où tout est lumière et amour. Veillais-je ? Suis-je encore endormi ? Ai-je gardé mes yeux de sommeil, ces yeux devant lesquels de lumineux espaces se reculent indéfiniment et qui suivent les espaces ? Malgré le froid de la nuit, ma tête est encore en feu. Allons au presbytère, entre le pasteur et sa fille, je pourrai rasseoir mes idées. Mais il ne quitta pas encore la place d'où il pouvait plonger dans le salon de Séraphita. Cette mystérieuse créature semblait être le centre rayonnant d'un cercle qui formait autour d'elle une atmosphère plus étendue que ne l'est celle des autres êtres. Quiconque y entrait subissait le pouvoir d'un tourbillon de clarté et de pensées dévorantes. Obligé de se débattre contre cette inexplicable force, Wilfrid n'en triompha pas sans de grands efforts. Mais après avoir franchi l'enceinte de cette maison, il reconquit son libre arbitre, marcha précipitamment vers le presbytère, et se trouva bientôt sous la haute voûte en bois qui servait de péristyle à l'habitation de M. Baker. Il ouvrit la première porte garnie de nevers, contre laquelle le vent avait poussé la neige, et frappa vivement à la seconde en disant « Voulez-vous me permettre de passer la soirée avec vous, Monsieur Baker ?»«
Oui !»
crièrent deux voix qui confondirent leurs intonations. En entrant dans le parloir, Wilfrid revint par degrés à la vie réelle. Il salua fort affectueusement Mina, serra la main de Monsieur Baker, promena ses regards sur un tableau dont les images calmèrent les convulsions de sa nature physique, chez laquelle s'opérait un phénomène comparable à celui qui saisit parfois les hommes habitués à de longues contemplations. Si quelque pensée vigoureuse enlève sur ses ailes de chimère un savant ou un poète, et l'isole des circonstances extérieures qui l'enserrent ici-bas, en le lançant à travers les régions sans bornes, où les plus immenses collections de faits deviennent des abstractions, où les plus vastes ouvrages de la nature sont des images. Malheur à lui si quelque bruit soudain frappe ses sens et rappelle son âme voyageuse dans sa prison d'os et de chair. Le choc de ces deux puissances, le corps et l'esprit, dont l'une participe de l'invisible action de la foudre, et dont l'autre partage avec la nature sensible cette molle résistance qui défie momentanément la destruction, ce combat, ou mieux cet horrible accouplement, engendre des souffrances inouïes. Le corps a redemandé la flamme qui le consume, et la flamme a ressaisi sa proie. Mais cette fusion ne s'opère pas sans les bouillonnements, sans les explosions et les tortures dont les visibles témoignages nous sont offerts par la chimie, quand se séparent deux principes ennemis qui s'étaient plu à réunir. Depuis quelques jours,
Lorsque Wilfrid entrait chez Séraphita, son corps y tombait dans un gouffre. Par un seul regard, cette singulière créature l'entraînait en esprit dans la sphère où la méditation entraîne le savant, où la prière transporte l'âme religieuse, où la vision emmène un artiste, où le sommeil emporte quelques hommes, car à chacun sa voie pour aller aux abîmes supérieurs, à chacun son guide pour s'y diriger, à tous la souffrance au retour. Là seulement se déchirent les voiles et se montre à nu la révélation, ardente et terrible confidence d'un monde inconnu, duquel l'esprit ne rapporte ici-bas que des lambeaux. Pour Wilfrid, une heure passée près de Séraphita ressemblait souvent au songe qu'affectionnaient les Thériakis et où chaque papille nerveuse devient le centre d'une jouissance rayonnante. Il sortait brisé comme une jeune fille qui s'est épuisée à suivre la course d'un géant. Le froid commençait à calmer par ses flagellations aiguës, la trépidation morbide que lui causait la combinaison de ces deux natures violemment disjointes. Puis il revenait toujours au presbytère, attiré près de Mina par le spectacle de la vie vulgaire duquel il avait soif, autant qu'un aventurier d'Europe a soif de sa patrie, quand la nostalgie le saisit au milieu des féeries qu'il avait séduites en Orient. En ce moment, plus fatigué qu'il ne l'avait jamais été, cet étranger tomba dans un fauteuil et regarda pendant quelque temps autour de lui, comme un homme qui s'éveille. Monsieur Becker, accoutumé sans doute, aussi bien que sa fille, à l'apparente bizarrerie de leur hôte, continuèrent tous deux à travailler. Le parloir avait pour ornement une collection des insectes et des coquillages de la Norvège. Ces curiosités, habilement disposées sur le fond jaune du sapin qui boisait les murs, y formaient une riche tapisserie à laquelle la fumée de tabac avait imprimé ses teintes fuligineuses. Au fond, en face de la porte principale, s'élevait un poêle énorme, en fer forgé, qui, soigneusement frotté par la servante, brillait comme s'il eût été d'acier poli. Assis dans un grand fauteuil en tapisserie, près de ce poêle, à sa gauche, devant une table, et les pieds dans une espèce de chancelière, M. Becker lisait un in-folio placé sur d'autres livres, comme sur un pupitre. Plus loin était un broc de bière et un verre. À sa droite, brûlait une lampe fumeuse entretenue par de l'huile de poisson. Le ministre paraissait âgé d'une soixantaine d'années. Sa figure appartenait à ce type affectionné par les pinceaux de Rembrandt. C'étaient bien ses petits yeux vifs, enchâssés par des cercles de rides et surmontés d'épais sourcils grisonnants, ses cheveux blancs qui s'échappent en deux lames floconneuses de dessous un bonnet de velours noir, ce front large et chauve, cette coupe de visage, que l'ampleur du menton rend presque carré, puis ce calme profond qui dénote à l'observateur une puissance quelconque, la royauté que donne l'argent, le pouvoir tribunicien du bourgmestre, la conscience de l'art ou la force cubique de l'ignorance heureuse. Ce beau vieillard, dont l'embonpoint annonçait une santé robuste, était enveloppé dans sa robe de chambre en drap grossier, simplement ornée de la lisière. Il tenait gravement à sa bouche une longue pipe en écume de mer, et lâchait par temps égaux la fumée du tabac en suivant d'un œil distrait les fantasques tourbillons, occupé sans doute à s'assimiler par quelques méditations digestives les pensées de l'auteur dont les œuvres l'occupaient. De l'autre côté du poêle et près d'une porte qui communiquait à la cuisine, Mina se voyait indistinctement dans le brouillard produit par la fumée, à laquelle elle paraissait habituée. Devant elle, sur une petite table, étaient les ustensiles nécessaires à une ouvrière, une pile de serviettes, des bases à raccommoder, et une lampe semblable à celle qui faisait reluire les pages blanches du livre dans lequel son père semblait absorbé. Sa figure fraîche, à laquelle des contours délicats imprimaient une grande pureté, s'harmoniait avec la candeur exprimée sur son front blanc et dans ses yeux clairs. Elle se tenait droit sur sa chaise, en se penchant un peu vers la lumière pour y mieux voir, et montrait à son insu la beauté de son corsage. Elle était déjà vêtue, pour la nuit, d'un peignoir en toile de coton blanche, un simple bonnet de percale, sans autre ornement qu'une ruche de même étoffe, enveloppait sa chevelure. Quoique plongée dans quelque contemplation secrète, elle comptait, sans se tromper, les fils de sa serviette ou les mailles de son bas. Elle offrait ainsi l'image la plus complète, le type le plus vrai de la femme destinée aux œuvres terrestres, dont le regard pourrait percer les nuées du sanctuaire, mais qu'une pensée à la fois humble et charitable maintient à hauteur d'homme. Wilfrid s'était jeté sur un fauteuil, entre ces deux tables, et contemplait, avec une sorte d'ivresse, ce tableau plein d'harmonie, auquel les nuages de fumée ne m'essayaient point. La seule fenêtre qui éclaira ce parloir pendant la belle saison était alors soigneusement close. En guise de rideau, une vieille tapisserie, fixée sur un bâton, pendait en formant de gros plis. Là, rien de pittoresque, rien d'éclatant, mais une simplicité rigoureuse, une bonhomie vraie, le laisser-aller de la nature, et toutes les habitudes d'une vie domestique sans trouble ni souci. Beaucoup de demeures ont l'apparence d'un rêve, l'éclat du plaisir qui passe semble y cacher des ruines sous le froid sourire du luxe. Mais ce parloir était sublime de réalité, harmonieux de couleurs, et réveillait les idées patriarcales d'une vie pleine et recueillie. Le silence n'était troublé que par les trépignements de la servante occupée à préparer le souper, et par les frissonnements du poisson séché qu'elle faisait frire dans le beurre salé, suivant la méthode du pays. Voulez-vous fumer une pipe ? Dit le pasteur en saisissant un moment où il crut que Wilfrid pouvait l'entendre. « Merci, cher monsieur Becker, » répondit-il. « Vous semblez aujourd'hui plus souffrant que vous ne l'êtes ordinairement ?» lui dit Minna, frappée de la faiblesse que trahissait la voix de l'étranger. « Je suis toujours ainsi quand je sors du château. » Minna tressaillit. « Il est habité par une étrange personne, monsieur le pasteur, » reprit-il après une pause. Depuis 6 mois que je suis dans ce village, je n'ai point osé vous adresser de questions sur elle, et suis obligé de me faire violence aujourd'hui pour vous en parler. J'ai commencé par regretter bien vivement de voir mon voyage interrompu par l'hiver, et d'être forcé de demeurer ici, mais depuis ces 2 derniers mois, chaque jour, les chaînes qui m'attachent à Jarvis se sont plus fortement rivées, et j'ai peur d'y finir mes jours. Vous savez comment j'ai rencontré Seraphita. Quelle impression me firent son regard et sa voix, enfin, comment je fus admis chez elle, qui ne veut recevoir personne. Dès le premier jour, je revins ici pour vous demander des renseignements sur cette créature mystérieuse. Là commença pour moi cette série d'enchantements. D'enchantements ? S'écria le pasteur en secouant les cendres de sa pipe dans un plat grossier plein de sable qui lui servait de crachoir. Existe-t-il des enchantements ? Certes. Vous qui lisez en ce moment si consciencieusement le livre des incantations de Jean Vire, vous comprendrez l'explication que je puis vous donner de mes sensations, reprit aussitôt Wilfrid. Si l'on étudie attentivement la nature dans ses grandes révolutions comme dans ses plus petites œuvres, il est impossible de ne pas reconnaître l'impossibilité d'un enchantement, en donnant à ce mot sa véritable signification. L'homme ne crée pas de force. Il emploie la seule qui existe et qui les résume toutes, le mouvement, souffle incompréhensible du souverain fabricateur des mondes. Les espèces sont trop bien séparées pour que la main humaine puisse les confondre, et le seul miracle dont elle était capable s'est accompli dans la combinaison de 2 substances ennemies. Encore la poudre est-elle germaine de la foudre ? Quant à faire surgir une création, et soudain, toute création exige le temps, et le temps n'avance ni ne recule sous le doigt. Ainsi, en dehors de nous, la nature plastique obéit à des lois dont l'ordre et l'exercice ne seront intervertis par aucune main d'homme. Mais, après avoir ainsi fait la part de la matière, il serait déraisonnable de ne pas reconnaître en nous l'existence d'un monstrueux pouvoir dont les effets sont tellement incommensurables que les générations connues ne les ont pas encore parfaitement classés. je ne vous parle pas de la faculté de tout abstraire, de contraindre la nature à se renfermer dans le verbe. Acte gigantesque auquel le vulgaire ne réfléchit pas plus qu'il ne songe au mouvement, mais qui a conduit les théosophes indiens à expliquer la création par un verbe auquel ils ont donné la puissance inverse, la plus petite portion de leur nourriture, un grain de riz d'où sort une création et dans lequel cette création se résume alternativement, leur offrait une si pure image du verbe créateur et du verbe abstracteur qu'il était bien simple d'appliquer ce système à la production des mondes. La plupart des hommes devaient se contenter du grain de riz semé dans le premier verset de toutes les Genèses. Saint Jean disait que le verbe était en Dieu, n'a fait que compliquer la difficulté. Mais la granification, la germination et la floraison de nos idées est peu de chose si nous comparons cette propriété partagée entre beaucoup d'hommes à la faculté toute individuelle de communiquer à cette propriété des forces plus ou moins actives par je ne sais quelle concentration, de la porter à une troisième, à une neuvième, à une 27e puissance, de la faire mordre ainsi sur les masses et d'obtenir des résultats magiques en condensant les effets de la nature. Or, je nomme enchantement ces immenses actions jouées entre deux membranes sur la toile de notre cerveau. Ils se rencontrent dans la nature inexplorée du monde spirituel, certains êtres armés de ces facultés inouïes, comparables à la terrible puissance que possèdent les gaz dans le monde physique, et qui se combinent avec d'autres êtres, les pénètrent comme causes actives, produisent en eux des sortilèges contre lesquels ces pauvres ilotes sont sans défense. Ils les enchantent, les dominent, les réduisent à un horrible vasselage et font peser sur eux les magnificences et le sceptre d'une nature supérieure, en agissant tantôt à la manière de la torpille qui électrise et engourdit le pêcheur, tantôt comme une dose de phosphore qui exalte la vie ou en accélère la projection, tantôt comme l'opium qui endort la nature corporelle, dégage l'esprit de ses liens, le laisse voltiger sur le monde, le lui montre à travers un prisme et lui en extrait la pâture qui lui plaît le plus. Tantôt enfin, comme la catalepsie, qui annule toutes les facultés au profit d'une seule vision. Les miracles, les enchantements, les incantations, les sortilèges, enfin les actes, improprement appelés surnaturels, ne sont possibles et ne peuvent s'expliquer que par le despotisme avec lequel un esprit nous contraint à subir les effets d'une optique mystérieuse qui grandit, rapetisse, exalte la création, la fait mouvoir en nous à son gré, nous la défigure ou nous l'embellit, nous ravit au ciel ou nous plonge en enfer, les deux termes par lesquels s'expriment l'extrême plaisir et l'extrême douleur. Ces phénomènes sont en nous, et non au dehors. L'être que nous nommons Séraphita me semble un de ces rares et terribles démons auxquels il est donné d'étreindre les hommes, de presser la nature et d'entrer en partage avec l'occulte pouvoir de Dieu. Le cours de ces enchantements a commencé chez moi par le silence qui m'était imposé. Chaque fois que j'osais vouloir vous interroger sur elle, il me semblait que j'allais révéler un secret dont je devais être l'incorruptible gardien. Chaque fois que j'ai voulu vous questionner, un sceau brûlant s'est posé sur mes lèvres, et j'étais le ministre involontaire de cette mystérieuse défense. Vous me voyez ici pour la 100e fois, abattu, brisé, pour avoir été joué avec le monde hallucinateur que porte en elle cette jeune fille, douce et frêle pour vous deux, mais pour moi, la magicienne la plus dure. Oui, elle est pour moi comme une sorcière, qui dans sa main droite porte un appareil invisible pour agiter le globe, et dans sa main gauche, la foudre pour tout dissoudre à son gré. Enfin, je ne sais plus regarder son front, il est d'une insupportable clarté. Je côtoie trop habilement, inhabilement, depuis quelques jours, les abîmes de la folie pour me taire. Je saisis donc le moment où j'ai le courage de résister à ce monstre qui m'entraîne après lui, sans me demander si je puis suivre son vol. Qui est-elle? L'avez-vous vue jeune? Est-elle née jamais? A-t-elle eu des parents? Est-elle enfantée par la conjonction de la glace et du soleil? Elle glace et brûle, elle se montre et se retire comme une vérité jalouse, Elle m'attire et me repousse. Elle me donne tour à tour la vie et la mort. Je l'aime et je la hais. Je ne puis plus vivre ainsi. Je veux être tout à fait, ou dans le ciel, ou dans l'enfer. » Gardant d'une main sa pipe chargée à nouveau, de l'autre le couvercle sans le remettre, M. Becker écoutait Wilfrid d'un air mystérieux, en regardant par instant sa fille qui paraissait comprendre ce langage en harmonie avec l'être qui l'inspirait. Wilfrid était beau comme Hamlet, résistant à l'ombre de son père, et avec laquelle il converse en la voyant se dresser pour lui seul au milieu des vivants. « Ceci ressemble fort au discours d'un homme amoureux, » dit naïvement le bon pasteur. « Amoureux ?» reprit Wilfrid. « Oui, selon les idées vulgaires, mais mon cher monsieur Becker, aucun mot ne peut exprimer la frénésie avec laquelle je me précipite vers cette sauvage créature. « Vous l'aimez donc ?» dit Mina d'un ton de reproche. « Mademoiselle, j'éprouve des tremblements si singuliers quand je la vois, et de si profondes tristesses quand je ne la vois plus, que chez tout homme de telles émotions annonceraient l'amour. Mais ce sentiment rapproche ardemment les êtres, tandis que, toujours entre elle et moi, s'ouvre je ne sais quel abîme dont le froid me pénètre quand je suis en sa présence, et dont la conscience s'évanouit quand je suis loin d'elle. Je la quitte toujours plus désolée, je reviens toujours avec plus d'ardeur, comme les savants qui cherchent un secret et que la nature repousse, comme le peintre qui veut mettre la vie sur une toile et se brise avec toutes les ressources de l'art dans cette vaine tentative. « Monsieur, tout cela me paraît bien juste, » répondit naïvement la jeune fille. « Comment pouvez-vous le savoir, Mina ? » demanda le vieillard. « Ah, mon père, si vous étiez allé ce matin avec nous sur les sommets de Falberg et que vous l'eussiez vu priant, vous ne me feriez pas cette question. Vous diriez comme Monsieur Wilfrid quand il l'aperçut pour la première fois dans notre temple. C'est le génie de la prière. » Ces derniers mots furent suivis d'un moment de silence. « Ah, certes, » reprit Wilfrid. Elle n'a rien de commun avec les créatures qui s'agitent dans les trous de ce globe. « Sur le Falberg ? » s'écria le vieux pasteur. « Comment avez-vous fait pour y parvenir ?»« Je n'en sais rien, » répondit Mina. « La course est maintenant pour moi comme un rêve dont le souvenir seul me reste. Je n'y croirai peut-être point sans ce témoignage matériel. » Elle tira la fleur de son corsage et la montra. Tous trois restèrent les yeux attachés sur la jolie saxifrage encore fraîche, qui, bien éclairée par les lampes, brilla dans le nuage de fumée comme une autre lumière. « Voilà qui est surnaturel, » dit le vieillard en voyant une fleur éclose en hiver. « Un abîme !» s'écria Wilfrid, exalté par le parfum. « Cette fleur me donne le vertige, » reprit Mina. Je crois encore entendre sa parole qui est la musique de la pensée, comme je vois encore la lumière de son regard qui est l'amour. De grâce, mon cher monsieur Becker, dites-moi la vie de Séraphita, énigmatique fleur humaine dont l'image nous est offerte par cette touffe mystérieuse. Mon cher hôte, répondit le vieillard en lâchant une bouffée de tabac, pour vous expliquer la naissance de cette créature, il est nécessaire de vous débrouiller les nuages de la plus obscure de toutes les doctrines chrétiennes. Mais il n'est pas facile d'être clair en parlant de la plus incompréhensible des révélations. Dernier éclat de la foi qui est, dit-on, rayonné sur notre tas de boue. Connaissez-vous Swedenborg ? De nom seulement, mais de lui, de ses livres, de sa religion, je ne sais rien. Eh bien, je vais vous raconter Swedenborg en entier.